Bonjour à tous et à toutes, de nouveau avec vous pendant une heure pour vous parler de sport au menu du rugby, du karaté, du foot, de l'arbitrage et beaucoup d'autres choses encore. Pour m'accompagner ce soir, une équipe fidèle autour de moi, il a à présent un point commun avec Dimitri Payet, le numéro 8, car c'est sa 8ème émission avec nous. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Avec un joli maillot de la Nouvelle-Zélande.
Oui, c'est ça.
Vous prenez parti.
J'ai un maillot des Springboks chez moi.
Oui, mais fallait pas le mettre celui-là.
Ouais, fallait pas le mettre pour l'instant dans la rue, j'avais peur de me faire taper.
Pas sûr que vous aviez toutes vos dents pour parler à la fin de cette émission. Avec le maillot de l'Afrique du Sud. C'est un petit peu la touche d'optimisme dans cette émission. Elle n'a pas un, mais elle a deux top dans son émission, ce qu'elle va nous présenter dans quelques minutes. Elle a le numéro 3 floqué sur le dos. Anne-Françoise est là aujourd'hui avec nous. Bonjour Anne-Françoise.
Et bonjour.
Numéro 3 parce que c'est la
troisième émission.
Voilà, c'est bien. Une équipe qui percute, une équipe qui s'agrandit puisqu'une nouvelle voix intègre l'équipe aujourd'hui. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Alors Julien, est-ce que vous avez, c'est un petit peu la tradition, est-ce que vous avez un CV sportif à nous présenter?
Un CV sportif, bah écoutez, actuellement je suis en stage à l'équipe. Donc voilà, donc je suis dans le journalisme, donc journaliste sportif,
voilà,
passé donc au Midi Olympique, à l'équipe, voilà. Donc
ça va contrebalancer.
J'ai les connaissances pour participer à cette émission.
Parfait, ouais, ça on n'en doutait pas, puisque vous allez voir, il y a une petite pastille à diffuser. Vous allez voir, Julien, que c'est pas très brillant autour du plateau. Il y a des avis tranchés, mais des pronostics catastrophiques. Vous verrez ça en fin d'heure. Puisque justement, il y aura les tops et les flops pour commencer. Un entretien aussi en face-à-face avec Madame Cécile Joussomme, championne de France de karaté, puis arbitre nationale pendant 22 ans. Elle est maintenant responsable de l'arbitrage en Occitanie. Elle est membre de la commission nationale d'arbitrage et elle sera avec nous pour nous parler de sa discipline et de la non-conservation du karaté pour les JO 2024 qui auront lieu à Paris l'été prochain. Il sera ensuite l'heure de débattre. La Coupe du Monde 2023 est-elle la pire Coupe du Monde de l'histoire du rugby? On tentera d'essayer de répondre à cette question et puis on terminera avec les pronostics de l'équipe. Ce soir, on verra s'ils vont se rattraper. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver le journal.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
En foot, Guillaume Rest veut marquer son empreinte au TFC.
Oui, il est la révélation de ce début de saison à Toulouse. Le gardien Guillaume Rest a enchaîné 10 matchs joués par les Violets, toutes compétitions confondues. Le natif du quartier Saint-Agne voulait depuis tout petit devenir footballeur professionnel et surtout jouer au TFC. Je veux m'inscrire dans la durée au club, rester le plus longtemps possible et marquer mon empreinte ici au TFC, a-t-il confié jeudi dernier.
Le TFC qui justement a fait un match nul en Ligue 1 pour la 9e journée.
Oui, 23 895 spectateurs se sont donné rendez-vous hier au Stadium pour profiter d'un match marqué par 3 ballons qui se sont écrasés sur les poteaux toulousains. Score final 1-1. C'était la dernière échéance avant le choc contre Liverpool en Ligue Europa.
Le club de Rodez en revanche, lui, encore frustré après son nul contre Bastia.
Mené puis revenu avant de pousser très fort en deuxième période, les Ruthénois ont enregistré un nul 1-1 samedi. Pour le compte de la 11e journée de Ligue 2, les Aveyronnais sont provisoirement 5e.
Du basket maintenant avec une belle réussite pour les basketteuses du Toulouse Métropole Basket.
Oui, elles ont vaincu la SIG Association sur un beau 90-60 de bon augure avant le match en 16e de finale de Coupe de France contre l'équipe de Tarbes Jespe Bigorre ce mardi 24 octobre. Ce sera à 20h. En revanche, c'est une double défaite du Stade Toulousain Basket. Les Tauros ont d'abord perdu leur match de Coupe de France 63-80 contre l'Élan Béarnais Paula Cortez mercredi 18 octobre, puis ils se sont inclinés contre la S Longplage Basket en national vendredi 20 octobre dans une rencontre très serrée soldée 73-76.
En handball, le Phoenix est temporairement co-leader de Star League.
Toulouse a remporté son match 29-32 face à Limoges, une victoire permettant de rejoindre temporairement Paris et Montpellier à la première place et de prendre un petit point d'avance sur Nantes dans la course au titre.
Les sports intenses ne sont pas sans risque. Une coureuse est décédée en plein trail des Templiers.
Cet événement de renom dans le monde du trail et de l'ultra-trail est organisé dans l'Aveyron. Une coureuse française de 37 ans y a perdu la vie vendredi. Elle participait à l'Endurance Trail, une épreuve de 104 km avec un dénivelé de 4550 mètres. L'incident s'est produit Au 45e kilomètre, près de Saint-André-de-Vézines, la coureuse a fait un arrêt cardiaque. C'est la première fois en 29 éditions du festival qu'un tel drame se produit.
Et finissons sur une victoire qui a un goût de rebond après la défaite de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de rugby.
L'équipe de France féminine a battu la Nouvelle-Zélande d'un point à Wellington samedi matin. Les Bleus ont parfaitement réussi leur début en Women 15, une nouvelle compétition internationale, en dominant 18-17 les Black Ferns, le pendant féminin des All Blacks. La Nouvelle-Zélande championne du monde en titre était responsable de leur élimination en demi-finale de la Coupe du Monde en novembre 2022. A noter que dans l'équipe tout banc confondu, 7 joueuses évoluent au Blagnac Rugby féminin, 3 au stade toulousain.
Allez, tout de suite, nous retrouvons les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et honneur aux dames, on va commencer avec vous, Anne-Françoise.
Ben du coup, moi aujourd'hui, j'ai deux tops à donner parce que j'aime bien voir les verres à moitié plein. Corinne m'a presque piqué mon premier top puisque je voulais parler de la victoire du 15 de France féminine contre les Black Ferns en ouverture de leur tournée d'automne. C'est la première fois qu'elles battaient les Néo-Zélandaises. Et il y a eu un très bel essai de 80 mètres, magnifique, après une bonne période de domination néo-zélandaise. Et le petit essai qui fait bien mal, mais pour une fois, c'était dans notre sens, alors ça fait plaisir.
Oui, merci de le préciser quand même.
Oui, voilà. Et du coup, j'ai un deuxième top. Et comme deuxième top, je voulais féliciter Tom Carlyle, qui a été sacré champion du monde des chevaux de 7 ans, au Mondial du Lion d'Angers en complet. Vous savez, les chevaux, on met des gens dessus, et après ils sautent des obstacles, ils galopent très 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 vite.
C'est là où on voit que cette émission est préparée, puisque dans le lancement, j'avais pas prévu du cheval.
Voilà. Mais non, mais c'est bien d'en parler, parce qu'en fait, on a des bonnes performances en équitation, et particulièrement en complet. Là, Tom Carlyle, qui est du coup un Toulousain d'origine quand même, il a gagné du coup le championnat du monde des 7 ans, avec sa jument Golden, avec qui il avait déjà gagné l'année dernière les 6 ans. Voilà, donc dans quelques années, il est fort probable qu'on la voit au plus haut niveau, cette jolie jument.
Eh bien, on vous laissera suivre l'équitation.
Cette jolie jument qui est une fille de Upsilon, son cheval de tête qui est décédé il n'y a pas très longtemps.
Très, bah c'est bien.
Mais invitez-moi pour parler d'équitation, moi c'est mon domaine, plus que le foot.
Ah bah ça, on l'a vu.
Oui.
vous allez voir la petite pastille juste après. Erwan, votre top et votre flop.
En top, j'ai décidé de me concentrer sur donc Gaël, mon fils, qui a remporté le 12e titre de sa carrière, 18 mois après le... Non, plus de 18 mois, il me semble, 20 mois après le dernier, donc qui était une victoire à Adélaïde, en Australie. Et voilà, bah, ça fait plaisir de voir que Gaël, mon fils, il continue de maintenir un peu toujours cet esprit qu'il a eu, c'est-à-dire de celui qu'on n'attend pas, et puis qui renaît d'un coup, qui regagne un titre. Ça a toujours été un peu comme ça, sa carrière. Les moments où on l'a attendu, il a malheureusement rarement réussi. Et puis au final, ça a toujours été un peu découvert de la pression qu'il a réussi à briller. Et voilà, à 37 ans, bientôt 38, il me semble, il se met en très bonne disposition pour le Masters 1000 de Paris-Bercy qui est dans quelques jours.
Il joue une finale tous les ans depuis 19 ans.
Il est
des finales de grands tournois majeurs, mais
il y a une régularité quand même, ouais. Une longévité en tout cas.
Exactement. Et votre flop?
Et pour le flop, j'ai décidé de parler de... Attendez, j'ai un trou de mémoire.
Arbitrage peut-être, non?
Non,
qu'est-ce
non,
qu'on pourrait passer aussi
Pas de flop, c'est pas grave.
Ah,
j'ai un trou.
Eh ben, c'est vous le flop. On en cherchait un, voilà, justement, c'est vous le flop. Félicitations.
Comme flop, je pourrais citer la performance de l'Angleterre, notamment, qui a décidé de pas jouer durant le match.
Alors, c'est pas d'accord.
L'Argentine pendant qu'on y est, quoi.
Bah, l'Argentine qui faisait l'épouvantail. Match d'entraînement pour les All Blacks avant de jouer la finale.
L'Argentine qui s'est pris beaucoup de décès parce qu'ils ont décidé d'essayer de jouer un peu les 20 premières minutes. L'Argentine, ils ont beaucoup la main sur le ballon. Ils ont autant la main sur le ballon que les Blacks. Ils sont beaucoup moins réalistes.
Les 20 premières minutes, je suis d'accord.
Dure 80 minutes, comme a pu le constater l'équipe de France.
Au moins, ils ont essayé de jouer, alors que par exemple, l'Angleterre, elle, n'a absolument pas essayé de jouer.
Ils ont joué comme des Anglais, ils jouent comme ça.
Ils ont joué les deux dernières minutes.
Nouvelle expression, ils ont joué comme des Anglais.
Ah bah attends, mais
on va la marquer sur le tableau,
c'est
ça.
C'est une expression connue pour le coup.
Ouais. Bah, en même temps, la météo nous prédisait tout à fait un jeu de cette façon de la part des Anglais. Ils font tout le temps comme ça quand il fait un mauvais temps.
Coraline, qui réalise cette émission d'habitude, n'est pas là puisqu'elle était à Paris pour aller voir le match et elle nous a confirmé que, autre que l'ambiance qui était morbide, le temps était pourri.
Ouais, non, mais entre
le match n'avait pas l'air mieux.
Ouais, voilà, non, ça avait comme quoi, elle a eu de la chance. Julien, est-ce que vous avez un top et un flop à nous présenter ce soir?
Bien sûr. Bon, à la base, je comptais partir sur mon fils, mais Erwan me l'a gentiment pris. Alors, du coup, moi, j'ai voulu partir sur la MotoGP. Bon, voilà, on met souvent en lumière plutôt la Formule 1, mais là, il y a eu une grosse performance du Français, dont Johan Zarco, qui a gagné son premier Grand Prix samedi en Australie. Donc, il faut savoir que ça fait bientôt 7 ans qu'il lorgne justement cette victoire. Donc, c'est en plus sa 120e course. Donc, autant dire que ça faisait un petit moment qu'il cherchait ça. Surtout qu'en plus, ce qui est beau pour lui, c'est qu'il a souvent été près du but, mais il a souvent été victime de chutes ou de problèmes techniques. Et en plus, cette année, voilà, il a fait 4 podiums, il a fait pas mal de deuxième place. Donc, vraiment, il le cherchait, justement, cette victoire. Et en plus, à savoir que, justement, le week-end dernier au Grand Prix d'Indonésie, il n'avait même pas pu finir sa course parce qu'il avait un problème technique. Et là, enfin, à ses 33 ans, il est enfin récompensé. Donc, bravo à lui.
C'est un petit peu la bonne nouvelle. On peut faire on peut 120 Grands Prix, tourner 120 fois, 20 fois, 30 fois et gagner à la 121e fois. C'est beau.
C'est ça. Là, c'était du coup la 120e fois. Et en plus, voilà, sa victoire est encore plus belle parce qu'elle s'était signée vraiment dans le dernier tour. Donc vraiment, c'est vraiment super, quoi.
Et quelque chose qui vous a un petit peu moins ravi.
Et qui m'a un peu moins ravi, je vais parler de foot et de Ligue 1 et de Lyon, bien sûr. Qui ne cesse de décevoir encore hier contre Clermont, justement, le duel du bas de tableau. Eh bien, ils ont encore perdu et ça commence vraiment à devenir inquiétant. Donc, au match d'hier, ils prennent 2 buts assez rapidement. On voit qu'il n'y a aucune réaction de leur côté. Vraiment, le problème, on peut le cibler au niveau de l'entraîneur, mais là, le problème, il vient clairement des joueurs. Il n'y a aucun mental, il n'y a aucune réaction. Là, en plus, ce match-là, c'était vraiment l'occasion pour eux de lancer leur saison parce que là, c'est terrible. Il leur reste encore plusieurs matchs. Donc là, par exemple, ce dimanche, ils vont à Marseille. Puis après, ils reçoivent Metz, qui, eux, sont justement un concurrent direct, malheureusement, au maintien. Ils vont à Rennes, ils reçoivent Lille, ils vont à Lens. Ils ont un calendrier terrible. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, ce résultat contre Clermont est vachement alarmant. Et surtout, il faut savoir que c'est leur pire début de saison depuis maintenant 58 ans. Et puis voilà, quand on connaît la capacité de l'effectif, il est loin d'être les pires, quoi. C'était un peu ma petite déception.
C'est inquiétant. Après, Toulouse et Saint-Etienne et Bordeaux qui sont descendus, peut-être qu'on va voir Lyon, l'ogre lyonnais qui a tout raflé à une certaine époque, va peut-être descendre en Ligue 2. En top, on aurait pu aussi citer l'équipe de France qui est championne du monde de foot fauteuil. Une domination écrasante pendant la Coupe du Monde en Australie. 11 matchs, 11 victoires, 48 buts marqués, 3 buts encaissés. Alors ça fera pas la une des médias. On aurait pu citer les joueurs Sylvain, Morgan, Brian, Aurélien, Erwan, Tristan, Amine, Mohamed, qui sont champions du monde de foot fauteuil. Voilà, invaincus, plein de buts marqués, pas beaucoup de buts encaissés. Bravo à eux. Au moins cette année, on finira champion du monde dans quelque chose.
Et oui.
Ça fait plaisir.
Avec le champion du monde militaire, etc.
C'est ça, le champion du monde de rugby militaire aussi.
C'était mon troisième top. Si vous en aviez demandé un troisième, j'avais suivi.
On peut même citer champion du monde de rugby des avocats. Voilà.
Alors, excusez-moi. La petite info insolite, peut-être qu'Aaron, vous nous la mettrez dans la chronique.
Ah, peut-être. Oui, peut-être. Il y aura quelques petites infos dont on n'a pas conscience dans la.
Ça, on vous fait confiance pour ça. Tout de suite, justement, il est l'heure de retrouver le grand entretien de cette émission. On va parler karaté dans Esprit Sport.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir dans ce face-à-face Cécile Joussomme. Bonjour et bienvenue dans Esprit Sport.
Bonjour Jonathan, merci.
Alors vous êtes professeur de karaté à Cadour, arbitre national depuis 2002, vice-championne de France en kata en 2005, plusieurs fois médaillée nationale, responsable de la Ligue de l'arbitrage Occitanie depuis sa création, membre de la Commission nationale d'arbitrage et championne de France vétéran en mai 2023. Quel parcours ?
Oui, c'est ça, exactement.
et j'ai pas énuméré toutes les médailles nationales, puisqu'il y en a énormément. Que dire ? Félicitations, bravo, merci, beaucoup de choses à dire sur ce parcours.
Merci, c'est gentil. C'est vrai que c'est un parcours que j'ai commencé il y a longtemps. Quand j'ai commencé le karaté, j'avais 8 ans. Donc ça fait déjà 37 ans de pratique. Et c'est une discipline que j'affectionne particulièrement et ça se constate puisque j'en ai fait ma vie. Voilà. Donc,
Justement, comment vous êtes tombé dedans? Comment vous êtes tombé dans ce sport?
je voulais faire du sport, enfin, surtout mes parents voulaient que je fasse du sport quand j'étais enfant. Et il y avait un club de karaté qui venait d'ouvrir à Cadour. J'habitais à Coix à l'époque. Et du coup, ma maman m'a mis au karaté avec mon frère. Et on a tous les deux adhéré assez rapidement à cette discipline.
Voilà, donc le karaté, une histoire de famille.
C'est ça, une histoire de famille, puisqu'ensuite, on a changé de club. On est parti sur Toulouse pour avoir des cours plus complets, disons. Et on voulait surtout faire de la compétition tous les deux. On est assez compétiteurs. Pardon. Et ma maman, finalement, s'y est mise à force de nous amener, de nous regarder. Puis ma sœur, puis mon autre frère, et c'est devenu une histoire de famille.
Ah oui, d'accord. Donc vous auriez pu créer un club à vous toute seule.
Oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs à Cadour, hein. Quand on a monté l'association, quelques années plus tard, après que j'ai passé mes diplômes d'enseignant, j'ai sollicité ma maman pour qu'elle soit présidente du club. Et le club aujourd'hui, il est dirigé par ma mère en tant que présidente, mais je suis professeure et j'ai comme assistante ma grande sœur
C'est un petit peu un retour aux sources, en
et ma
plus.
nièce.
C'est un
C'est
retour
ça,
aux sources parce que
exactement.
voilà, vous étiez de Coix, vous êtes allé à Cadour et puis après vous êtes parti à Toulouse. Et là vous êtes revenu à Cadour, donc voilà, c'est une sorte de retransmission de tout ce que vous avez appris tout au long de ces années.
C'est ça, quand j'ai passé mes diplômes de professeur, le club venait de fermer à Cadour. Et du coup, ça me tenait à cœur vraiment de remonter quelque chose dans mon village où j'étais née, puisque je suis née à Coix. Donc je suis vraiment du secteur. Et je trouvais ça important pour moi de proposer aux gens du coin une discipline bon, moi, avec laquelle moi je m'épanouissais vraiment beaucoup et de pouvoir leur proposer aussi enfin, un sport vraiment qui apprend à la fois à vivre et à la fois qui donne beaucoup de plaisir dans la pratique.
Voilà, justement, ce sport qui nous apprend à vivre au final. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour ceux qui connaissent vaguement le karaté? Il y a plusieurs karatés pratiqués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Et en quoi vous êtes particulièrement efficace au vu de toutes les médailles que vous avez eues?
Alors, dans le karaté, effectivement, il existe plusieurs disciplines. Il y a le karaté kata, donc ça, c'est un combat réel contre un adversaire imaginaire qui est codifié sur des chorégraphies. Ensuite, il y a le combat. Bon, c'est quelque chose qui parle assez plus au public qui est novice. Ben, deux partenaires qui s'opposent avec des protections et on fait des techniques de poing et de pied. Ça s'apparente beaucoup à la boxe française, au kickboxing, à d'autres disciplines d'opposition. Et ensuite, il y a également le karaté jutsu. Donc là, ça va être plus des clés, des étranglements. On a également le karaté mix qui vient d'être créé, qui est du karaté en cage. Un peu comme le MMA, si pour les novices qui ne connaissent pas mais qui l'ont déjà vu à la télé. Et je fais également des cours au club de cardio karaté. Donc c'est en musique sur un rythme très élevé avec des techniques de karaté pied-poing et du renforcement musculaire. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières pour faire cette discipline.
Le kata, le
Après,
kion, le cardio-karaté, kumite, énormément de spécificités dans le karaté en général.
c'est ça, exactement. Après, tous ensemble regroupent quand même des valeurs qui sont les mêmes à chaque fois, à savoir le respect de soi et des autres. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent au club. Et beaucoup de parents qui nous les mettent pour apprendre ce cadre qui est important aujourd'hui et puis aussi apprendre à se défendre, puisque le karaté est un art martial de défense. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu plus dans un sentiment d'insécurité qu'il y a quelques années.
La discipline aussi, qui est un petit peu le fil rouge de ces pratiques japonaises, comme le judo, qui apprend la discipline, le respect de l'adversaire, des valeurs comme ça.
C'est ça exactement. La rigueur de travail aussi qui est importante pour pouvoir progresser. Ben, le don de soi, parce qu'on est sans cesse en train de partager avec les autres. C'est vraiment une discipline qui partage et qui permet la transmission. Les plus gradés, les aînés, permettent aux nouveaux de progresser en leur transmettant leur savoir. Et puis, c'est vraiment beaucoup de valeurs, la politesse également.
La ponctualité, parce qu'il faut faire aussi, il faut arriver à l'heure à l'entraînement. Parce que le nombre de tours de tatami fait quand j'étais petit, parce que je suis arrivé en retard, je peux vous dire que j'en ai fait un paquet. Fait quelques kilomètres.
C'est ça, la ponctualité. Après, à Cadour, on reste quand même un club assez familial. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu excentré, hein, on n'est pas sur proche de la région toulousaine. Donc, bon, je tolère quand même quelques retards.
Ah, d'accord. Les fameux bouchons toulousains, le quart d'heure toulousain à retrouver, évidemment.
C'est ça.
Vous êtes aussi arbitre national depuis 2002. On va parler un petit peu de cette pratique d'arbitre. On ne met pas souvent en lumière les arbitres dans les sports de combat, puisque c'est souvent l'esthétique du sport de combat qui ressort. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait au karaté? Qu'est-ce qu'il arbitre? Qu'est-ce qu'il juge?
Alors, quand on est arbitre kata, donc ça c'est la discipline qui se pratique seule, on a toute une liste de critères à respecter pour pouvoir faire sortir le meilleur des deux, puisqu'ils passent l'un après l'autre et on juge au drapeau pour sortir le compétiteur qui aura eu la meilleure exécution sportive et la meilleure exécution technique.
Est-ce qu'on peut apparenter ça aux arbitres de patinage artistique?
Oui, également, c'est ce que j'allais vous dire. On peut apparenter ça au patinage artistique, puisque d'ailleurs à l'international et au mondial, les athlètes sont jugés aux notes. Donc c'est exactement le même principe, une note technique et une note sportive. Et c'est sur le même principe, ils sont alignés. Et c'est noté de cette manière-là. Par contre, en France, on continue de noter au drapeau. C'est la décision de la Commission nationale d'arbitrage. Je ne sais pas si on viendra aux notes dans les années à venir. Le karaté est très complexe à comprendre pour les personnes qui ne pratiquent pas au niveau de l'arbitrage, justement. Donc, on essaie de trouver, de se chercher pour pouvoir proposer quelque chose qui est compréhensible de tout le public.
Pour que les règles soient plus compréhensibles au plus grand nombre, et voilà.
C'est ça, exactement. En combat, par exemple, le règlement d'arbitrage vient de changer cette saison. Donc, j'ai fait beaucoup de séminaires et de formations pour mes arbitres parce que on a modifié une grande partie de la réglementation pour que ce soit plus compréhensible du grand public et pour essayer de devenir olympique, puisqu'on l'était et qu'on nous a sorti des Jeux Olympiques.
Justement,
Paris 2024.
Et justement, malgré des karatékas plusieurs fois titrés, Léa Avazeri, qui est championne du monde et quintuple championne d'Europe, Steven Dacosta, qui a gagné sa médaille d'or au JO et qui a deux titres mondiaux, ils ne représenteront donc pas la France au JO, puisque il n'y aura pas de karaté aux Jeux Olympiques. C'est une annonce qui a été faite le 21 février 2019 par le comité d'organisation des JO à Paris, et qui annonçait de tout simplement retirer le karaté de la liste des sports de 2024. 250 000 licenciés, presque 5 000 clubs en France. Et comment vous avez réagi à l'annonce de cette décision, vous en tant qu'arbitre et en tant que pratiquante de ce sport?
Alors ça a été quand même un coup de massue pour l'ensemble de la communauté du karaté d'avoir ce retrait aux Jeux Olympiques. C'est vrai que le karaté est très développé en France. Donc la France, y compris les autres pays du monde, attendait beaucoup de la décision du COJO pour l'intégration du karaté aux Jeux Olympiques. Et tout le monde a été très, très surpris de cette décision, surtout parce que le karaté a été remplacé par le breakdance. C'est une discipline qui regroupe peu de licenciés, alors qui peut être aussi apparentée plutôt à un arc, à un sport. Mon mari et mon fils ont pratiqué le breakdance, j'adore cette discipline.
Oula, dans la famille, ça doit faire le sport de maman a remplacé celui de papa. Comment on se situe entre les deux, là?
Alors, bon, mon mari fait aussi du karaté, aussi champion de France et de la boxe française, on est très sportifs. Mais c'est vrai que j'apprécie vraiment cette discipline, hein. Le breakdance, c'est très beau à voir, très physique, mais... c'est une discipline qui, normalement, fait partie des X-Games et qui est plus apparentée à de la danse et à de l'art. Donc, c'est vrai que ça a été pour nous un gros coup de massue. En plus, aux Jeux Olympiques de Tokyo, au Japon, Steven Dacosta a effectivement décroché la médaille d'or. Et on s'attendait vraiment à pouvoir y rester, on cochait toutes les cases qui permettent d'être olympique.
Champion olympique, savoir, donc voilà, le sport avait toute sa place.
C'est ça, en fait, pour être olympique, un sport doit cocher tout un nombre de cases, notamment le fait de pouvoir être pratiqué dans les quartiers défavorisés, de pouvoir être pratiqué par à la fois les valides et les handicapés, de pouvoir être accessible partout, autant pour les hommes que pour les femmes. Et du coup, on cochait toutes les cases. Et on avait eu confirmation du COJO qu'on rentrerait, qu'on serait olympique à Paris. Donc ça a été d'autant plus la surprise.
Parce que la France est la deuxième meilleure nation mondiale de cette discipline, avec 172 médailles internationales, 437 médailles européennes. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous en France et vous en tant qu'arbitre et dans les clubs, pour que le karaté soit encore plus reconnu? On a parlé des règles pour qu'elles soient un petit peu plus accessibles au public. Quelles sont les initiatives lancées par les clubs et la fédération de karaté?
Alors, quand il y a eu effectivement la mise en place du COJO qui a refusé le karaté, on a eu un laps de temps de 6 mois pour que ce soit vraiment définitif. Donc on a essayé de faire bouger les choses en faisant intervenir beaucoup de politiques, en créant la ceinture de couleur arc-en-ciel qui s'appelait Belt of Hope, la ceinture de l'espoir. Et il y a eu beaucoup de communication qui a été faite dessus. Mais bon, malgré tout, la décision était déjà prise. Donc on n'a pas pu revenir dessus. Pour Los Angeles, on a appris il y a quelques semaines que c'est pareil, on ne sera pas olympique en 2028. Donc, ce qui manque beaucoup, c'est de la médiatisation. Et le problème, c'est que c'est une boucle parce qu'on n'est pas olympique, donc on n'est pas médiatisé. Et on n'est pas médiatisé, donc on ne peut pas devenir olympique. Et ça, c'est très compliqué pour nous. Également, les sponsors qui font que on se bat contre Red Bull, par exemple, pour le breakdance, alors que nous, bon voilà, notre sponsor en France, c'est Norris. Et du coup, au niveau financier, on pèse pas très lourd.
Voilà, c'est pas la médiatisation, mais la mise en lumière de ce sport et de ses valeurs qui peinent un petit peu.
Oui, oui, c'est très compliqué. Au niveau de la télé, on voit très, très rarement du karaté. Et les gens ont une méconnaissance du coup de cette discipline.
On en voyait pendant les Jeux Olympiques.
On en a vu là pendant les Jeux Olympiques, mais les gens pensent, c'est vrai, quand je discute avec certaines personnes, pensent que le karaté est olympique depuis toujours, alors que nous ne l'avons jamais été, sauf aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo.
Donc, c'est dire que dans l'esprit collectif, le karaté est quand même une discipline olympique.
Alors, le karaté, dans l'esprit collectif, est une discipline olympique. Et en France, est reconnu comme un sport olympique. Lorsque j'ai reçu le trophée de l'AFCAM, qui est l'association française du corps arbitral multisport cette année, je l'ai reçu parce que le karaté est sport olympique. Mais il n'est pas discipline olympique. Merci.
Et justement, que dire aux enfants ou aux parents qui hésitent à s'inscrire au karaté? Les rassurer, peut-être.
Il n'y a pas d'hésitation à avoir pour s'inscrire au karaté. Même si ce n'est pas un olympique, on a quand même les championnats du monde pour ceux qui ont des ambitions plus grandes. Ils ont lieu d'ailleurs la semaine prochaine à Budapest pour la catégorie senior, donc le 28 et le 29 octobre. Après, c'est pas l'olympisme qui fait la discipline. Le karaté, c'est un sport qui amène énormément de valeur et qui permet de partager avec les autres. C'est à la fois un sport individuel, mais qu'on travaille en collectif. Donc, ça, c'est aussi une vision qui est importante à avoir. Et puis, on pratique... c'est vraiment... moi, c'est ma passion, donc c'est...
Ah oui, c'est pour ça, on le sent dans tout ce que vous nous dites, que ce que vous nous partagez. Vous qui êtes revenu aux sources, vous qui... si on a envie de se faire entraîner par une championne de France comme vous, est-ce que vous pouvez nous donner les informations de votre club à Cadour pour peut-être ceux qui nous écoutent dans le nord-ouest toulousain?
Oui, bien sûr. Alors, à Cadour, on pratique le karaté de 3 ans et demi jusqu'à 80 ans. J'ai plusieurs sections, les baby karaté. Donc là, c'est de 3 ans et demi à 6 ans, et c'est beaucoup de travail de repérage dans l'espace, de pédagogie, de coordination des mouvements. On apprend à découvrir son corps, à découvrir les règles aussi, comme je vous disais, et le cadre. Et pour les tout-petits, c'est très intéressant. Ensuite, je fais les enfants et puis les adultes. Les cours sont le mercredi après-midi de 15h45 jusqu'à 22h, puisque les groupes s'enchaînent. Et le vendredi soir, de 17h30 à 22h également. Voilà, si vous voulez passer nous voir, c'est avec grand plaisir. Le dojo est ouvert à tout le monde, aux débutants comme aux confirmés.
Est-ce qu'il y a un site internet ou une page Facebook où on peut se renseigner ?
Alors, il y a une page Facebook, oui, qui s'appelle Team Karaté Kadour, sur laquelle on peut trouver des renseignements, et un site internet qui s'appelle Karaté Kadour également. Voilà, et puis c'est vraiment une très belle équipe que j'ai au club avec beaucoup de gens très motivés et qui m'assistent beaucoup parce que avec l'arbitrage, c'est vrai que je suis amenée à partir régulièrement partout en France. Et du coup, j'ai beaucoup d'adultes qui se sont portés volontaires et même d'ados pour passer les diplômes et aider dans l'association. Donc c'est une grande chance et un grand trésor de les avoir.
Voilà, donc c'est plein de bonnes choses pour l'avenir, pour vous et votre club. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous retrouve du côté de Kadour, donc.
C'est ça, exactement. Merci à vous pour l'échange et c'est ce qui permettra effectivement au karaté d'être un peu plus connu voilà, en faisant ce genre de d'interview.
Vous qui êtes là autour de la table, est-ce que ça vous, autour de la table ou pas d'ailleurs, est-ce que ça vous motive de faire une petite session de karaté comme ça à Kadour?
Bon, pourquoi pas.
Voilà, courageux mais pas téméraire. Hein.
Voilà,
exactement. Pourtant, Erwan, vous en avez fait.
Ah oui, j'en ai fait pendant 2 ans. Effectivement, je faisais des katas, je me battais pas, mais ouais, c'est un beau sport.
Françoise, ça vous tente un petit peu?
Bah, moi, ça me tente, mais c'est parce que aussi je connais Cécile.
Ah oui,
voilà,
c'est
ça a été elle a été la prof de karaté de mes enfants. Moi, dans ma famille, on était tous licenciés dans ce club.
Ah oui, d'accord.
Donc, il y avait les babies, donc il y en a qui ont commencé à 3-4 ans. Mon mari.
Donc on peut commencer très tôt en plus.
Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a du baby karaté, c'est un peu de la gym, ouais, de la motricité, voilà. J'ai mon fils qui a été jusqu'à la ceinture marron et pour l'instant, il attend d'avoir 14 ans pour pouvoir passer la noire. Ah. Voilà, et moi je faisais du.
La noire à 14 ans au collège, va pas falloir l'embêter.
C'est ça. Et moi je faisais du cardio en fait, enfin du fitness,
ouais.
Cécile propose aussi
ouais,
des cours.
Du cardio karaté.
Exactement, donc ouais, nous on est un peu à fond. Un peu à fond karaté, du coup, on est
super,
un peu déçus que.
Cobra Kai.
On est un peu déçus qu'on puisse. De ne pas pouvoir voir du karaté aux Jeux Olympiques parce que le champion du monde, il est français, en fait. Donc, c'est un peu dommage.
Steven Dacosta.
Steven Dacosta, ouais.
Effectivement.
Qui est venu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, faire un entraînement. Alors, c'est à Montauban, mais du coup, tous les jeunes de la région ont pu aller le rencontrer.
Julien, le karaté, ça vous tente?
Bon, pourquoi pas.
le bon au début.
Non, mais c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas, voilà, pas forcément mis en lumière. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas la participation au JO. C'est un peu dommage, comme on l'a dit. En plus, le champion du monde est français. Après, je ne sais pas si vraiment je compterai l'y mettre, mais voilà. Ça reste sport très sympathique
à regarder. On va tous, mais vous allez voir, il n'y a pas que le karaté en sport de combat qui va arriver dans l'esprit sport. Vous allez voir, je vous réserve quelques surprises cette année. On va faire quelques petites séances d'initiation pour les moins courageux. Dans quelques instants, on va débattre. Et tout de suite, c'est Big Feu et Oli.
Maintenant que t'es connu, maintenant que t'as de la thune, mais tu te barres pas. Je lui ai dit ta gueule, va. Vas-y, ferme-la. T'es pas de Toulouse, tu comprendras pas. S'il y a bagarre, je ramène Antoine Dupont, Ducon, tu vas faire quoi? Placage 5 étoiles, fais gaffe ou j'appelle Ntamak. Arnaud Bernard, ça crie Ara. Jardin d'Embarthe, évite la bac. Viens, je t'embarque, on va dans un parc avec les vieux qui jouent aux cartes. Elle aime mon accent, ça fait mon charme. Michel Saran, je fais chauffer la carte. Évidemment, elle rentre avec moi. Depuis que j'ai percé, j'habite au Carme. Oh putain, ça fait du bien. Le TFC remonte en Ligue 1. Mon pote Sweaton, il m'a dit, on fait ça au lac de la Reinerie. Kebab de Parga sur Insta, ta meuf ADM, un des joueurs du stade. Oh là là, c'est pas grave, on va oublier tout ça. Dis à mamie de t'en mettre un autre, celui-là, il est pour moi. J'aurais pu vivre à Paris, j'aurais pu vivre à Tokyo, j'aurais pu vivre à Miami, j'aurais pu vivre à Rio.
Mais ma ville c'est tout. Oh.
Oh.
Le genre de phrase que les autres villes ne connaissent pas. Comme la chemise, comme les hebdas. Autocollants du stade collés sur le Vespa. Ramène des clopes d'Espagne. Les petits fumeux défusés comme à la cité de l'espace. Et rien que ça date à toute heure. C'est plus la place Wilson, c'est la place Tinder. Encore un mariage place du cas. Dis-moi combien de temps ça durera. Ça peut finir au tribunal pour l'addition en Floride. Refoulé de l'ice after au campus. Dans la queue y'a plus d'avions que chez Airbus. Ici y'a trop de fierté putain. On n'est pas français, on est Toulousain. J'ai ramené une fille de Bordeaux. Elle a kiffé les briques rouges. On a couché sur du Nougaro.
La chronique.
Quels sont les constats de cette Coupe du Monde? Cette question, Erwan va essayer d'y répondre.
Alors pour le mondial en général, on en reparlera tout à l'heure durant le débat du jour. Vous avez vu comment je lance bien le débat tout à l'heure?
C'est incroyable.
Et voilà. Mais pour les Bleus, ce constat, il se porte surtout vers l'avenir. Nouveau grand patron du rugby français, Florian Grill a confirmé qu'il ne souhaitait pas s'étendre sur l'élimination des Bleus. Ça fait tous mal, mais le passé appartient aux autres, le futur est le cœur du 15 de France. Car oui, avec une équipe jeune et un premier mandat de Fabien Galthié largement réussi dans l'ensemble, le sportif chez les Bleus, c'est une case qui a déjà été cochée. Niveau effectif, une large majorité de joueurs pourront virtuellement rempiler jusqu'en 2027. Certains postes, comme la ligne de 3 quarts ou celui de numéro 5, sont légèrement en disette, mais l'arrivée des Tuilagi, Méafou, Coste, Deporter et de tant d'autres devrait remplir le réservoir sans aucun problème. En réalité, le poste qui inquiète, c'est celui de pilier droit. Thomas Laclaya, Deba Bamba, Dorian Aldeguerri et Sipidi Falatea sauront-ils succéder aux grands, aux majestueux, aux lourds, aux barbus Winnie Antonio? Personne n'en est certain pour l'instant, donc petit message aux formateurs, trouvez un champ libre, quelque part dans le Gers de préférence, et commencez à faire pousser des numéros 3, bon, ce sera utile pour l'avenir. Et cette belle dynamique sportive, pour l'avenir justement, la fédération aussi, elle n'en doute pas. Tout le monde va dans le même sens et le président de la FFR affirme qu'il laissera Fabien Galthié travailler avec les mêmes libertés qu'avant. Le but n'est pas de chambouler ce qui marche, mais de relancer ce qui a été perdu.
Mais alors qu'est-ce qui a été perdu par ce 15 de France?
Eh bien, Florian Grill explique qu'il manque une véritable présence française dans les institutions de World Rugby. D'ailleurs, ce n'est pas tant le 15 de France que l'intégralité du rugby français qui y perd. Après des années à être bien représenté, sous les années de gouvernance de Bernard Lapasset, puis au début du mandat de vice-président de Bernard Laporte, la France est désormais orpheline à World Rugby. Alors bien évidemment, nous avons toujours nos 3 sièges au conseil de World Rugby. Alors là, je parle un peu chinois peut-être pour certains, mais si vous ne comprenez pas trop ce que ça signifie, dites-vous qu'on parle d'un conseil de grands sages. Ces derniers décident de la direction à prendre pour le rugby mondial, et le nombre maximum de sièges est de 3, donc ce que possède la France. Et voir une fédération prendre de plus en plus d'importance après une Coupe du Monde, bah c'est presque devenu une habitude. Dans l'histoire récente du rugby, cette prise de position, elle n'est donc pas inhabituelle comme vous l'aurez compris, et après la réussite de la Coupe du Monde 2019 au Japon, la fédération nippone en avait profité pour s'affirmer politiquement dans le rugby mondial. En 2023, le Japon a même eu l'honneur de rentrer dans le cercle très 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 fermé des 3 sièges au conseil de World Rugby. L'archipel a ainsi hérité d'une place unique dans le rugby mondial. Entre autres, elle est la seule fédération à avoir autant d'importance politiquement sans participer au tournoi de destination ou au rugby championship. Bien évidemment, la France possède un statut politique et historique tout autre que celui du Japon en 2019, mais il prouve que grandir après l'organisation d'un mondial, c'est tout de même un peu plus facile.
Et si la France a déjà 3 sièges dans ce fameux conseil, qu'est-ce qu'elle peut attendre de plus au juste ?
Eh bien, Florian Grill espère toujours pouvoir s'immiscer dans les commissions. Ces commissions, ce sont elles qui décident et débattent sur la manière d'appliquer les décisions du Conseil de World Rugby. Et pour s'adapter au rugby mondial, ça ne sert pas à grand-chose de savoir quelles décisions vont être prises seulement. Hein, il faut pouvoir accompagner ça autrement, car si tu n'es pas capable de savoir comment elles vont être mises en place, bah, tu ne peux pas en faire grand-chose de ces décisions. De 2008 jusqu'à la crise Covid, la France était très présente dans ces dernières. Et ça, ça se voit. Par exemple, les arbitres français étaient nombreux à officier en Coupe du Monde, soit en 2015 ou en 2019. Aujourd'hui, ils ne sont plus que deux et il n'y a que Mathieu Reynal qui officie en tant qu'arbitre de champ. Et si la France a perdu ses places, c'est à cause de plusieurs facteurs extérieurs. Le plus important étant les affaires judiciaires de Bernard Laporte, qui ont donné une image un peu dégradée au rugby français et qui ont surtout fait en sorte que les soutiens de Bernard Laporte n'officient plus au sein de World Rugby. Ces dernières, elles empêchaient le dirigeant français d'éteindre l'affluence du rugby français dans les instances. Depuis, certaines fédérations anglo-saxonnes ont pris place dans les trous laissés vides par le rugby français. Désormais, Florian Grill veut augmenter le nombre de Français ou de tricolores dans ses commissions pour être le plus à l'affût des évolutions et pouvoir ainsi les retranscrire et permettre au rugby français d'évoluer de manière générale, que ce soit dans le top 14 ou en scène l'équipe de France. Alors oui, c'est peut-être un peu moins sexy qu'un essai acrobatique ou qu'une charge dévastatrice d'un numéro 8, mais c'est aussi ça le rugby de haut niveau, un peu de sportif, malheureusement beaucoup de politique, beaucoup de politique, et c'est de ça dont sera fait le rugby français de demain. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous avez peur du mélange entre le sport et la politique, bah ça ne fait pas bon ménage. Oui, bon, rassurez-vous, vous ne risquez pas de voir beaucoup de costumes cravates si vous souhaitez uniquement profiter du 15 de France, tout du moins, on l'espère.
Merci beaucoup Erwan pour cette chronique qui nous laisse peut-être avec de l'espoir.
Oui, de l'espoir, ne serait-ce que sportivement déjà, on a toujours une très très belle équipe.
Justement, vous avez bien lancé le débat qu'on aborde tout de suite. Ce samedi, c'est la finale de la Coupe du Monde de rugby. Et justement, cette édition est-elle la pire de l'histoire du rugby ? Mesdames, madame, messieurs, j'attends vos débats, votre avis. Julien, est-ce que cette édition de la Coupe du Monde de rugby est-elle la pire de l'histoire de ce sport ?
Bon, après, c'est un petit peu compliqué sur plusieurs aspects. On pourrait dire qu'elle est la pire avec un peu cette déception de voilà, parce qu'on imaginait tous pouvoir aller au bout, enfin, pour une fois, avoir une équipe capable d'aller au bout. On n'avait jamais été aussi fort. Après, si on prend l'aspect en général, je suis pas d'accord. On peut pas dire que c'est une des pires coupes du monde parce que pour la première fois, on avait vraiment beaucoup de candidats capables d'aller soulever ce trophée. Donc la France, l'Irlande, bon, les habitués All Black, Afrique du Sud. Après, en match de poule, on a eu de très belles surprises, on a eu de beaux matchs. Je pense surtout au Portugal qui nous a vraiment, on a découvert cette équipe. Sous la Gisquet qui vraiment a fait un énorme travail et qui a été récompensé en battant les Fidji, qui justement elle aussi a fait bonne impression, a fait feu de tout bois, vraiment fait nous a plu, et justement en battant cette équipe d'Australie qui justement avait été éliminée pour la première fois. Donc on a eu beaucoup de matchs plutôt intéressants. Forcément, ben on retient aussi le négatif de ce tirage au sort peut-être fait un peu trop tôt. Du coup, ben, deux des quatre favoris a été sorti en quart de finale, mais je n'en garde pas le souvenir comme quoi ça pourrait être une des pires coupes du monde. Bon, j'étais un peu jeune, mais je pense à 2007 par exemple qui était pour moi pire que celle-là. Après, peut-être pas mieux que 2019 qui, selon moi, était quand même très très, très spectaculaire et très jolie. Mais celle-là était plutôt réussie.
Elle est moyenne peut-être.
Des étoiles des bleus, mais ouais, voilà. Enfin, vraiment moyenne plus même, je dirais.
Moyenne plus. Alors, c'est des arguments qui ont beaucoup fait réagir ici en plateau. Anne-Françoise qui hochait la tête, se mordait les lèvres, secouait les épaules. Pas
ouais,
trop d'accord.
Bref. Non, mais en fait, faut voir ce qu'on entend par la pire. Est-ce que nous, les Français, on n'a pas un peu le seum parce qu'on a mis, on avait mis la barre très haut, on les attendait. C'était notre Coupe du Monde, c'était chez nous, on avait une super équipe.
On était à ça de faire le deuil de la défaite. Vous recommencez.
Non, mais bah, évidemment, on est là pour ça. Fallait pas mettre un sujet
on
comme ça. On commençait si
à se dire
parle,
ça va, on a perdu, la vie continue. Et vous, vous revenez en disant.
Non, mais justement, justement moi, je me dis, dis que, ok, la défaite, elle est difficile, elle est très frustrante, mais certainement parce qu'on avait une grosse attente. En fait, on a mis. Moi, mon père, il disait toujours, devant, quand il s'énervait devant les matchs du 5 Nations à l'époque, que les Français, ils sont jamais meilleurs que quand on les attend pas. Un peu comme Gaël Monfils, quoi. Et en fait, là, ils étaient attendus. Et peut-être c'est ça qui a été compliqué. Après, il y a plein de paramètres. On va pas revenir sur l'arbitrage parce qu'il y a pas de raison. On va revenir sur le coaching parce qu'on sait que ça a été un problème. Mais bon, finalement, ok, on n'a pas passé les quarts. En même temps, les Australiens, ils sont pas sortis des poules, hein. Donc l'un dans l'autre.
Mais le rugby, maintenant c'est Erwan qui fait le pendulier droite gauche.
Voilà.
Pour
non
dire
mais
qu'il est pas content.
Finalement, est-ce que, bon, alors, c'est sûr que voir les Anglais, c'est une grosse surprise. Moi, je trouve dans les quarts. Mais est-ce que ça a pas un petit peu un intérêt aussi, parce que si tout était écrit et si on savait déjà que le classement de l'IRB, il nous donne l'arrivée à la Coupe du Monde, à quoi ça sert de jouer quelque part?
Qui doutait de cette finale au moment des quarts? Des demi, pardon.
Qui doutait de
Des demi, ah oui, pas grand monde, je pense quand même.
Voilà, on a surtout dans cette émission commencé directement par dire oui, le tirage, 300 avant, bof, bof,
oui,
c'est peut-être ça, pas
c'est,
la meilleure idée.
Bah,
est-ce que ça, ça n'a pas contribué
peu,
à faire
bof, bof.
Bah, pire que pas la meilleure idée, c'est une terrible idée. Pour moi, c'est vraiment l'idée qui a mis. En fait, si jamais on devait faire une colonne. Point négatif, point positif, de la deux colonnes du coup, de la Coupe du Monde.
Ouais,
le nombre de choses qu'on pourrait dire sur ce tirage très précoce, c'est aberrant. Ça a totalement déstabilisé les poules. Et puis, ça a créé des quarts qui étaient totalement déséquilibrés. Ouais,
les quarts, c'était les demi.
C'est les deux tableaux.
Finales.
En fait, c'est les deux tableaux. C'est pas tant les poules entre elles, mais c'est le fait qu'il y ait eu poule 1, poule 2 avec les quatre meilleures équipes du monde. Et
5 même.
Oui, 5, t'as raison, il y a l'Écosse. Et les deux autres poules où en fait le niveau n'avait rien à voir.
Mais du coup, l'arbitrage discutable, Anne-Françoise en a parlé, les matchs un peu mous, un coup sur deux, un coup le match il est incroyable, un coup le match il est
incroyable. Il y a quand même eu des matchs incroyables.
Non, mais il y a quand même eu des matchs incroyables, il n'y en a pas eu tant que ça. Ça
voilà.
Désolé. Hein.
Il y en a
cet
argument-là.
Julien parlait de 2019, moi je peux me parler de 2015, qui est pour moi la meilleure Coupe du Monde que j'ai vue. C'était vraiment. Il y avait quasiment tous les matchs étaient intéressants en 2015. Alors voilà, bon, il y avait toujours forcément, il y a 3-4 matchs qui passent un peu au travers.
Mais
quand l'Afrique du Sud rentre en 2015 et qu'ils se font battre par le Japon à travers un match qui est magnifique, c'est pas juste l'Afrique du Sud qui déjoue, c'est le Japon qui fait vraiment le plus grand exploit de l'histoire du rugby. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, je pense. Elle souffre un peu de la comparaison avec les deux dernières Coupes du Monde. 2019 était aussi très bien. Là, je trouve que cette Coupe du Monde, déjà, il y a pas mal d'équipes qui sont arrivées avec un niveau qui était franchement pas terrible. Alors, je pense que c'est dû au Covid. Les équipes
pour le Sud.
Oui, même pour l'Europe, le Pays de Galles, l'Angleterre, parce que l'Angleterre, ils vont en demi-finale, mais le niveau de jeu proposé, il est vraiment pas très intéressant.
Alors, l'Angleterre, est-ce que c'est pas dû au renouvellement aussi de leurs joueurs? Enfin, ils ont quand même une.
Ils ont les mêmes joueurs qu'à la finale 2019. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient déjà là. Et même encore avant.
Ouais, non,
et puis est-ce qu'on
aime bien voir les...
on aime bien voir les... faut voir la façon, par exemple, dont les All Blacks sont arrivés à la compétition. Non, mais c'était... Enfin, on avait de la peine pour eux, en fait.
Par contre, ils se sont
complètement relancés. C'est un truc incroyable.
C'est une équipe qui monte crescendo.
Ils ont de la chance de passer à chaque fois, par contre, parce que... Vu ce qu'ils ont fait juste avant la Coupe du Monde, moi c'est le match contre les Sudaf, je me suis dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe?
Mais
est-ce qu'ils l'ont fait exprès?
Après, justement, pour parler de ces équipes et de leur forme avant la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2023 a deux équipes en finale qui ont perdu un match pendant cette Coupe du Monde.
Tout à fait.
Ça va être la deuxième fois, parce que déjà en 2019, c'était la première fois qu'une équipe gagnait en n'ayant pas été invaincue de la compétition. Donc l'Afrique du Sud qui avait perdu contre la Nouvelle-Zélande en poule. Et là, ça va être la deuxième fois. Du coup, c'est bien, ça permet de rebattre un peu les cartes sur cet aspect-là. Mais je sais pas, ça montre aussi que, en poule, je trouve qu'il y avait un côté où un peu l'impression que tout se jouait et rien jouait.
C'était
à
pour
la
le
fond.
Folklore,
ça
ne
servait
pas
à
grand-chose
en fait, parce que dans tous les cas, tu sors premier ou deuxième. Vu que dans les poules, tu as quand même deux grosses équipes de petites, tu sors quoi. Il n'y a pas trop de risque de ne pas sortir.
Ah bah l'Australie, on les embrasse. Hein.
Oui, non mais voilà, mais c'est mais un sur combien quoi.
L'état du rugby australien est calamiteux aussi.
Enfin, voilà. Je veux dire, la prochaine Coupe du Monde va être chez eux.
Eux, mais pour le coup, le Covid, ils l'ont vraiment mal vécu en fait.
Le Covid a été un accélérateur en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient...
Eddie Jones.
Tous les voyants... De quoi?
Eddie Jones, ça n'a pas été un choix...
Eddie Jones, je pense qu'en vrai, c'était un bon choix, sur ce qu'ils ont fait. C'est quelqu'un qui est très, très spécialisé dans la préparation physique avant les grosses compétitions. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être avant tournoi, tout ce qui va être avant Coupe du Monde. C'est pas forcément une personne voilà, hyper à jour sur tout ce qui va être les tournées, même ne serait-ce que sur la manière de repérer les joueurs. On se rappelle de certains joueurs qui brillaient complètement en première chip. Voilà, et notamment Zach Mercer qui est venu en France pour pouvoir s'imposer et où Eddie Jones s'est complètement passé à travers. C'était une personne qui partait avec un groupe qui il pouvait partir avec je caricature un peu, mais avec des joueurs de Fédéral 1. Il est tordé comme des bœufs pendant 2 mois et puis il les envoyait avec un objectif précis. C'est exactement ce qu'il avait fait avec le Japon, c'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément un niveau international hyper développé, et puis sauf que quand ils ont eu le tirage et qu'ils ont su qu'ils affrontaient l'Afrique du Sud, ils ont dit bah, ok, maintenant tout ce qu'on fera, tous les entraînements, tous les échauffements, toutes les causeries auront pour but ce match. Et d'ailleurs on a vu que juste après ils avaient affronté l'Écosse et bah voilà, ils s'étaient effondrés contre l'Écosse.
Je vous donne des arguments, vous me dites oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec le fait que cette Coupe du Monde soit la pire de l'histoire du rugby.
Alors pire de l'histoire? Moi, je sais pas, mais la pire, peut-être...
La pire de la décennie, de ce siècle-là
du siècle, ouais, du 20e siècle, peut-être. C'est comme dit Julien, ça se joue avec 2007, je pense. Voilà. Y a une petite...
Ah oui, non, mais largement.
Vous voyez que l'histoire de la Coupe du Monde du rugby, telle qu'on la connaît, est très récente.
Oui.
Non, mais clairement. Ouais.
Et après, je pense que vraiment, ça se joue avec 95.
De l'histoire du rugby.
95, première Coupe du Monde avec
l'ère professionnelle. Donc ça se joue, au final, avec 95.
Ouais, ça se joue avec 95, 2007 et 2023, c'est-à-dire que... T'avais des Coupes du Monde, en fait, qui étaient 95, parce que c'est le début du professionnalisme. Professionnalisme, c'est 92, il me semble. Donc, c'est vraiment... les équipes devaient savoir comment fonctionner comme des structures professionnelles. Mmh. Et les fédérations, d'autant plus, c'était très particulier, parce qu'ils avaient toujours fonctionné comme quelque chose de très amateur. Du coup, c'était vraiment particulier. Il y avait un côté où t'avais certaines équipes qui étaient un peu mieux préparées à ça. Puis t'avais la fameuse histoire de potentielle tricherie de l'Afrique du Sud, que ce soit en demi ou même en... Oui. Même en finale, et surtout en finale, parce que bon, voilà, on se rappelle que
contre la France encore.
Non, la plus grosse tricherie, c'est quand même parce que la France, c'est surtout qu'il y avait un orage énorme pendant le match. Pour le coup, c'est que la finale, toute l'équipe des All Blacks quasiment avait été empoisonnée avant le match.
Ah oui, Saint-André l'a rappelé cette année.
Il avait les
mais en 2019, surtout, c'était l'essai injustement refusé à Ben Ali aussi, qui aurait tout changé.
Oui, et l'essai qui n'avait jamais été marqué de Kruger. Voilà. Et qui a lui-même avoué sur son lit de mort avant de mourir.
Je n'ai jamais marqué l'essai.
Je n'ai jamais marqué cet essai.
Et est-ce que dans 40 ans, on entendra dire...
Colby, je suis parti avant. Oui, dès qu'il a bougé les hanches, j'ai commencé à partir parce que je me suis dit que c'était bon.
Parce que ça fait 6 ans que j'ai joué 6 ans avec lui, je sais comment il faisait. Mmh. C'est du pipeau, mon garçon, t'es parti 3 minutes avant, on l'a tous vu. C'est encore un peu là.
C'est encore un petit peu près. Hein.
Non, mais...
Ben, c'est pour ça aussi qu'on a forcément cette Coupe du Monde 2023, on a tellement, on va dire, de frustration que automatiquement, je pense que si on était à l'heure actuelle en finale, peut-être qu'on n'aurait pas ce même avis sur cette Coupe du Monde à l'heure actuelle. Là, vraiment, je pense qu'il y a aussi beaucoup la rancœur et la déception qui parlent. Parce qu'honnêtement, cette Coupe du Monde, je la trouve... en plus, c'était historique. Je veux dire, pour la première fois en 10 éditions, on avait des équipes de l'hémisphère nord qui sortaient premières de leur poule. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de scénarios plutôt improbables, comme on en parlait de l'Angleterre qui va en demi. Bon, certes, en jouant pas très bien, mais je veux dire, il y a eu beaucoup de rebondissements.
Si on regarde du côté de la ferveur populaire, je pense qu'on a aussi passé un grand pas, en fait.
C'est totalement éteint au demi, par contre.
Ah bah
dès que la France a été éliminée.
Pour moi, c'est une des raisons pour laquelle c'est pas une bonne Coupe du Monde, et pourquoi c'est peut-être la pire.
Voilà.
C'est qu'il y a eu en demi, le stade était éteint. Alors plus Argentine All Blacks, c'était la caricature du cercueil, quoi. C'était vraiment, il y avait pas un bruit, c'était terrible. Pour l'Afrique du Sud, il y avait un peu plus de bruit. Je pense que c'était aussi parce que malheureusement, il y avait Ben O'Keefe et du coup, les gens s'amusaient à siffler.
C'est les sifflets sur l'arbitre qui ont aidé à animer ce stade. Ouais.
C'est ça, malheureusement. Mais
après, c'est compliqué quand l'équipe nationale elle est éliminée, parce que la plupart des supporters dans les stades sont quand même français, j'imagine. Même s'il y a beaucoup de supporters étrangers, mais enfin, d'ici à remplir 80 000 personnes, C'est clair que c'est pas les gens qui viennent de l'autre côté de la Terre. Ils viennent pas à 80 000. Mais je pense que avant, si on prend en compte avant et avant l'écart et puis toute la montée aussi avant la Coupe du Monde, moi j'ai trouvé ça plutôt positif pour le rugby quand même globalement.
Mais ouais, une Coupe du Monde c'est souvent positif pour le rugby. C'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des choses qui ont été faites qui étaient plutôt sympas. Et puis le fait qu'après on dise là, je vais encore faire la propagande des petites équipes comme j'adore le faire, mais le fait qu'en plus après ça induise à une Coupe du Monde à 24 et qu'il y ait le Portugal et qu'il y ait l'Uruguay.
Ah, ça vous plaît ça, ces petites équipes.
Ah, on va pouvoir avoir des débats intéressants là-dessus.
Ouais. Ouais, eh bien écoutez, les autres débats seront dans cette émission. Donc Esprit Sport, n'oubliez pas. Ça clôt un petit peu ce débat. Tout le monde n'est pas d'accord un petit peu sur est-ce que c'est la pire Coupe du Monde de l'histoire du rugby. On verra ça samedi prochain. Peut-être qu'on va avoir un 3-3 à la mi-temps et que là, tout le monde dira elle était pourrie cette Coupe du Monde. Peut-être, qui sait ?
Le point final.
Le point final, voilà, exactement. Voilà. Tout de suite, justement, je vous demande un petit peu de concentration puisqu'il est l'heure de demander vos pronostics et c'est à ce moment-là où Julien va nous faire du bien puisqu'on fait un léger retour sur les pronostics de la semaine dernière.
Moi, je vais vous donner juste mon pronostic. Je pense que l'Écosse va gagner.
Eh ben, moi, ça me surprend parce que moi aussi, je voulais dire que l'Écosse allait gagner.
Donc justement, on met un petit peu de contexte après cet extrait. France-Écosse d'ailleurs, en foot. Un match mardi soir, tout le monde a pronostiqué un match un petit peu naze, on va pas se le cacher. On a tous vu, vous avez tous vu l'Écosse gagner. Résultat, 4-1 pour la France. Merci, bisous, on range les vêtements, on rentre
mais
à la maison.
Mais qui aurait pu le prédire?
Non, mais c'était un match amical.
C'est ce qu'on essaye de faire,
du monde qui se jouait un mardi à Lille. Il y avait vraiment le signe indien. Il y avait un cimetière indien sous le stade.
J'essaie de vous justifier, Erwan, et c'est trop tard, Erwan. Voilà, on sent la mauvaise foi. Voilà. Julien, justement, top départ, vous avez 30 secondes pour nous donner vos arguments et votre pronostic sur Liverpool-Toulouse qui a lieu jeudi à 21h. C'est parti.
Bah, alors pour moi, je pense que ça ne fait aucun doute. Pour moi, Liverpool va malheureusement gagner, je pense, tranquillement. Parce que Toulouse, depuis ce début de saison, c'est, il faut le dire, hein, avec le changement d'entraîneur, c'est catastrophique. Hein. Je veux dire, comme on a vu la stat, Toulouse a été sauvé 10 fois par son poteau. Là, ça piétine contre de nombreuses équipes du championnat et surtout en face Liverpool. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun monde pour moi où Toulouse crée l'exploit.
Et bien voilà, et si Toulouse fait un match nul ou gagne, on vous remettra cet extrait, Julien. Sachez-le. Anne-Françoise, je vous ai vu. Moi, je suis d'accord avec vous, Julien. Anne-Françoise, 30 secondes. Liverpool ou Toulouse jeudi soir à 21h?
Alors moi, je suis plutôt Liverpool, mais enfin, sans être aussi dur quand même avec Toulouse. Ça me semble pas non plus ni l'évidence, ni ils vont prendre 10-0, quoi, mais... Non, mais oui, Liverpool quand même, ouais. Par principe, mais pas tant d'écart.
Ah, par principe, alors la semaine dernière, on avait du courage. Cette semaine, on...
Chaque semaine, son sentiment.
On a peur de l'extrait
peut-être
la semaine prochaine,
peu.
C'est ça.
Peut-être.
Peut-être, très bien. 9 secondes, rien à rajouter. Un buteur, comme ça, au hasard.
Non, les autres, je les connais même pas, en fait. faut pas me parler de foot, parlez-moi d'équitation. Moi,
Oui, très bien. Quelqu'un à qui on peut parler de foot avec son joli maillot de l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Erwan, 30 secondes.
Moi aussi, je vais partir sur une victoire de Liverpool, mais je trouve Julien extrêmement dur sur l'idée que c'est catastrophique. Dans le jeu, ça l'est pas tant que ça. Il y a des recrues qui ont eu un peu de mal à s'adapter, mais en même temps, faut dire que c'est vraiment un gloubi-boulga, le TFC. Il y a toutes les cultures, toutes les langues, etc. Mais maintenant, ça marche très bien. Franchement, que ce soit Donou, Mugela Bert, c'est pas mal. Moi, j'imagine bien un match comme le 3-0 de l'an dernier contre le PSG, où le TFC avait très bien joué, mais au final, ils avaient perdu très largement parce que juste, le problème, c'est que si jamais ils s'oublient pendant 3 occasions, ils prennent.
C'est terminé, c'est 30 secondes, mon cher Erwan, vous savez, le couperet tombe, le micro se coupe, hein, et vous parlez beaucoup, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on a tous marqué que c'était pour Liverpool, ce match de la Ligue Europa. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec nous, merci beaucoup Julien.
Avec plaisir, merci à vous.
Voilà, ça apporte un petit peu, comme vous l'avez dit, de journalisme dans cette émission, après ces pronostics complètement bancal. Erwan, merci d'avoir été avec nous aussi.
Que journaliste dire vous embrasse.
Que dire? Oui, c'est vrai. Oui, ça. Oh, ça vous a pas plu, ça?
Non, j'étais un peu. Je vais aller pleurer après.
Il est vexé. Bon, on verra la semaine prochaine s'il sera là. Merci beaucoup, Anne-Françoise.
Bah, pas de problème. Moi, j'assume de pas être journaliste, donc.
Eh bien, vous avez bien raison. Et ça, c'est beau. Et
moi,
ça,
je suis
c'est
la partie
très
comptoir de l'équipe.
Exactement. Voilà. La semaine prochaine, on parlera football australien. Qu'est-ce que c'est le football australien? Qui sont ces joueurs?
C'est comme le football gaélique.
Que font-ils? Quelles sont ces règles? Eh bien, on en parlera la semaine prochaine dans l'émission Esprit Sport. Très bonne journée à tous, que vous écoutez ça peut-être en allant au sport ou ailleurs. Bon courage et à bientôt.